Deux, trois. Oui.
C'est très bien. Ok. Bon, on commence par votre... Bah, déjà, vous présentez votre média. Qu'est-ce que vous faites ?
Alors, je m'appelle Christian Van Hoek. Je suis l'animateur fondateur du média en ligne parisécologie.com. C'est un site web qui existe depuis 2002 maintenant, qui a plusieurs vocations, mais il faut déjà comprendre ce que signifie le terme de Paris dans Paris Écologie. C'est Paris au sens large, c'est Paris déjà le Grand Paris avant l'heure, c'est plutôt la région parisienne, voire l'Île-de-France, hein, l'agglomération, en tout cas Paris au sens large et non pas seulement Paris intramuros. C'est important de comprendre ça, d'autant plus avec les développements actuels, dans les enjeux actuels. Bon. C'est un média qui, au départ, avait pour vocation de relayer les initiatives franciliennes, professionnelles et citoyennes, et d'éditer deux lettres électroniques, une citoyenne et une professionnelle, adressées à une liste de diffusion. Et ce, jusqu'à 2014-2015. En 2015, j'ai refondu le site et maintenant, deux autres vocations se sont adjointes. Non seulement c'est un méta-relais des initiatives franciliennes et toujours un éditeur de lettres thématiques, une dédiée à la protection du vivant, à préservation du vivant, et l'autre dédiée à la problématique carbone. Ces deux lettres sont mensuelles et adressées à 32 000 contacts en France. Une autre vocation est de fournir une documentation sur des enjeux thématiques sous forme de documents PDF au fil des années. Et enfin, une quatrième vocation consiste à réaliser, construire des pages web de référence dédiées à des enjeux ou à des études du moment, des sujets assez cruciaux à mes yeux, et qui sont visibles et présents en ligne et en bonne place pendant plusieurs années. Voilà.
Donc vous faites un travail d'information. Alors pour les gens qui ne sont pas vraiment informés, donc en général nos auditeurs, qu'est-ce qu'on peut dire, donc c'est une première question d'ordre un peu général, qu'est-ce qu'on peut dire de l'état de santé de l'environnement à Paris aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a eu des progrès ? Est-ce qu'il y a beaucoup de progrès à faire et où éventuellement ?
Alors, c'est une vaste question évidemment, assez complexe, on va essayer de rester simple et d'aller à l'essentiel. Il faut savoir qu'en ce moment, on est dans une période de grande manœuvre où ça bouge de tous les côtés. Et j'espère pouvoir développer un petit peu cette question-là, cet aspect-là, que ce soit au niveau de la ville de Paris ou de la région. Hein. Il y a quand même, à mon sens, quelques enjeux majeurs à considérer en premier lieu. C'est d'abord la question de la transition énergétique, hein, qui elle-même a deux axes majeurs, hein, qui seraient l'immobilier et les transports. L'immobilier, ça consiste à isoler les bâtiments, les façades, installer des panneaux solaires, végétaliser les toitures terrasses, faire des travaux sur les fenêtres. À signaler d'ailleurs une opération exemplaire dans ce domaine, c'est l'éco-quartier Clichy-Batignolles, tout un quartier rénové aux normes écologiques, et qui est un modèle du genre salué en Europe. Au niveau des transports, augmenter l'offre de transports collectifs, bien sûr, partager, hein, donc aussi bien les véhicules individuels que collectifs, et surtout basculer à l'électrique. En finir avec le moteur à explosion, hein, de manière évidemment à diminuer les nuisances pour ce qui est de la qualité de l'air, mais aussi les nuisances sonores, hein, et diminuer l'émanation de CO2 dans l'atmosphère. Il y a un autre axe majeur, un autre enjeu majeur qui se développe au jour d'aujourd'hui, c'est la question de l'agriculture urbaine et de la végétalisation. Augmenter l'offre d'agriculture urbaine en ville, c'est favoriser des circuits courts d'approvisionnement et des circuits courts et locaux. Donc c'est réinstaller la production en ville. Évidemment, c'est diminuer l'impact carbone des transports d'aliments. Hein. C'est aussi créer des emplois et développer des filières de formation.
Voilà, alors je voulais donc trois axes, hein, en gros, vous dites. Le premier, l'immobilier. Vous avez cité un cas à Clichy-Batignolles, donc on est en dehors de Paris Intramuros. Oui ?
Ah non, nous sommes dans Paris Intramuros. Ah oui, c'est Clichy-Batignolles, c'est un quartier de Paris, du nord de Paris.
Alors, en regardant un peu l'état des immeubles, il y a beaucoup d'immeubles qui sont très anciens, c'était le 17e siècle, 18e siècle, on a l'impression qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire. Alors là, vous avez cité un cas positif, là, un succès. C'est un travail immense, hein. Il y a, je crois, 100 000 immeubles à Paris.
Alors, bon... la question de la rénovation énergétique des bâtiments est une question très lourde et très complexe qui engage tout un tas de parties prenantes, hein, que ce soit les pouvoirs publics, les entreprises, les organismes financiers, les copropriétaires. Et évidemment, il faut que tout ce monde se coordonne et agisse ensemble. Pour ce qui est du financement de ces opérations très lourdes, il est nécessaire d'installer des tiers financiers qui puissent servir de relais de financement à long terme pour les copropriétés. Et au jour d'aujourd'hui, les pouvoirs publics orchestrent des réunions de conférences dans les copropriétés afin de faciliter... Le lancement d'une dynamique de la rénovation énergétique des bâtiments au sein des copropriétés, et ce partout dans Paris. Maintenant, pour revenir à la question des immeubles haussmanniens, naturellement, c'est végétaliser les toitures, c'est à commencer par végétaliser les toitures terrasses, hein, qui sont plus faciles à végétaliser puisque planes. Mais la question se pose effectivement du bien fondé d'avoir des toits en zinc qui réfléchissent la chaleur, hein. D'ailleurs, tous les toits de couleur obscure réfléchissent la chaleur, la renvoient. Hein.
Donc okay. il faudrait intervenir sur les toitures avec la couleur aussi, donc c'est une question...
Voilà, sauf que là on se heurte à la question des normes paysagères du bâti parisien. Tous ces immeubles haussmanniens sont classés, et remettre en question le charme et l'esthétique de ce style architectural, c'est quelque part aller vers un autre modèle de ville que moi je prône, puisque si vous allez sur mon média, vous verrez ce qu'affiche et ce qu'a développé un visionnaire architecte belge pour les années 2050, hein, qui serait de construire par-dessus ces immeubles des espèces de tours végétalisées très ouvertes, autosuffisantes sur le plan énergétique, et qui permettraient des cultures urbaines. Donc c'est tout à fait envisageable de rénover, mais ça suppose une révolution des consciences, une révolution culturelle.
Et ça suppose, j'imagine aussi, des investissements. Donc il y a un problème aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens à Paris, par exemple, qui vivent dans des immeubles qui ont déjà du mal à rénover pour des petits travaux, les immeubles. Donc il y a une question financière aussi.
Voilà, donc naturellement, s'il est question de basculer dans un modèle d'intégration de l'agriculture urbaine, c'est-à-dire une végétalisation tout azimut, une colonisation des toits par l'agriculture, ça suppose des moyens d'envergure qui dépassent carrément, mais largement, ceux des copropriétés et même de la ville de Paris. Hein, et dans ce cas-là, il faudrait que l'État investisse aussi, puisque quand on a affaire à des bâtiments classés, évidemment, là, les corps de métier de l'État doivent entrer en ligne de compte, hein, doivent prendre en charge ces manœuvres-là. Là, on serait dans les grandes manœuvres. Bon, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a énormément d'aménagements urbains en ce moment à Paris qui sont réalisés par la ville, ou en région d'ailleurs, hein, pour ce qui concerne, par exemple, des zones de friche qu'on réinvestit, pour ce qui concerne les revêtements urbains, ou certains bâtiments publics qui sont en phase de rénovation énergétique.
En ce qui concerne les transports, donc on sait que la maire de Paris, Madame Hidalgo, a beaucoup investi, enfin beaucoup d'énergie du moins, sur les pistes cyclables, etc. Quel est votre bilan? On a l'impression quand même qu'il y a des progrès qui sont faits là.
La ville de Paris est très très active dans toutes ces questions pour une bonne raison, c'est qu'elle a mis en place un plan climat qui à lui seul englobe toutes les problématiques dans toutes les directions. Et dans ce plan climat figurent 500 mesures concernant les transports, le bâtiment, l'énergie, l'alimentation, les déchets. Évidemment, c'est une offre globale qui est avec des problématiques interconnectées et qui ont un rôle de cause à effet notoire les uns sur les autres. Pour ce qui est des transports, bon, il y a quand même, il faut bien le dire, deux offres de véhicules partagés qui ont été un véritable fiasco, c'est-à-dire Autolib et Vélib. Bon, pour des raisons de gestion, d'accompagnement, de surestimation et de la demande et de sous-estimation des moyens à mettre en œuvre. Mais enfin, la relève arrive, de nouvelles offres de véhicules partagés sont annoncées pour 2019. Peugeot et Renault sont sur les rangs pour les automobiles. Et pour ce qui est des vélos électriques, notamment, il va y avoir en septembre la plus grande offre au monde dédiée aux vélos électriques en location longue durée qui va s'installer en Île-de-France. Donc coordonnée, et c'est un bonheur, par Paris et la région conjointement. Voilà. À signaler un petit clin d'œil, une curiosité qui est le Sea Bubble, qui est un prototype de taxi qui va survoler la Seine à partir du printemps prochain et qui annonce des véhicules qui vont peut-être désengorger les grands axes parisiens. Alors ça nous amène tout droit à la question de la piétonnisation de la rive droite, hein, qui est une affaire qui fâche, hein, qui a fâché. Mais c'est totalement révélateur du mode de fonctionnement actuel des parties prenantes dans les questions de gestion urbaine en Île-de-France, à savoir Paris et la région. On avait deux projets concurrents, antagonistes, hein, pour cette piétonnisation, le projet de la ville de Paris et le projet de la région. Le projet de la ville de Paris, qui était un projet sans trop de moyens financiers, mais qui était réaliste parce qu'on a l'expérience de la piétonnisation. Et en fait, il suffit de supprimer la circulation et ça demande peu d'aménagement. Par contre, le projet de la région était, lui, beaucoup plus ambitieux et demandait beaucoup plus de moyens financiers puisqu'il prévoyait d'abord une piétonnisation graduelle au fil des années, ensuite une interconnexion quand même des réseaux de transport, une intermodalité en plein milieu de Paris, et enfin des parkings relais de part et d'autre de cet axe qu'est la rive droite, la voie rive droite. Or, les emprises dédiées à ces parkings relais de part et d'autre de la rive droite sont pas vraiment définies et demanderaient des investissements colossaux. Finalement, le tribunal administratif de Paris a tranché et a déclaré viable le projet parisien, qui est plus réaliste, effectivement.
Est-ce que, à votre avis, c'est réaliste d'imaginer Paris en 2050 avec un bilan neutre en CO2? Parce qu'il y a eu un rapport, il y a une étude qui a dit, en gros, bon, ça peut se faire, mais est-ce que c'est réaliste?
En tout cas, les plans et processus engagés au jour d'aujourd'hui, que ce soit au niveau de la ville ou de la région, vont dans ce sens-là. À l'horizon de 2020, il y a un plan vélo qui va se mettre en place dans Paris, hein, par exemple, avec des itinéraires dans la continuité qui vont traverser tout Paris et qui seront en site propre. Il y a de nombreux travaux d'aménagement urbain à Paris. Par exemple, on piétonnise les places. Donc, de plus en plus, on laisse la place aux piétons, aux circulations douces. Et on essaie de dissuader les utilisateurs d'automobiles de les laisser au pourtour de Paris. Alors maintenant, ça c'est un vœu pieux de penser au zéro carbone en 2050, étant donné que la question de la rénovation énergétique des bâtiments est seulement dans sa phase de commencement, et c'est une phase qui va durer pas mal de dizaines d'années, certainement. Donc 2050, ça me paraît un petit peu tôt, mais on va dans ce sens-là. Et on va vers l'électrification, par exemple, des véhicules, que ce soit les véhicules de transport collectif ou les véhicules individuels. Tout va dans ce sens. Toutes les parties prenantes œuvrent pour aller dans ce sens. Maintenant, évidemment, on part de loin. Par exemple, la région a aussi lancé des actions très, très, très fortes en matière de transport, puisqu'elle a décidé l'investissement dans 700 trains neufs d'ici 2021, c'est-à-dire bientôt. Elle va développer une offre de bus conséquente, qui s'appelle le plan Grand Paris des bus d'ici 2020, avec 4 lignes créées, un TZN qui est un bus en site propre. Elle a décidé de mieux desservir le nord-est et les bois et d'assurer une meilleure connexion de la banlieue. Le prolongement du RER E et OL en région est décidé, financé. On a décidé aussi l'implantation de parkings qui globalement constitueront une capacité de 10 000 places aux abords des gares, des grandes gares parisiennes. Et l'appel à projet régional dédié au vélo a un grand succès d'ores et déjà. A signaler quand même une action commune entre la ville et la région, qui est le développement du tramway sur les boulevards extérieurs, hein, puisque l'un des derniers tronçons du T3 vient d'être inauguré à l'ouest de Paris, et on peut penser que ce tramway T3 fera le tour de Paris d'ici quelques années. Voilà. Alors maintenant, est-ce que les habitants sont prêts à aller...
Une question de mentalité aussi, parce qu'il faut changer les habitudes.
Alors, mentalité, je ne sais pas si c'est une question de mentalité, c'est une question d'état d'esprit et puis de mode de vie, effectivement. Mais d'abord, la population est très diversifiée à Paris. Personne n'est à même de dire qu'il y a un comportement type du Parisien. Les Parisiens sont prêts à changer à condition qu'on les aide, qu'on les accompagne. J'en prendrai pour exemple l'exemple du véhicule électrique. Là, actuellement, Renault a une offre insistante pour créer vraiment un marché de l'électrique en offrant des possibilités d'achat d'une Zoé électrique à crédit avec des mensualités modiques. Seulement pour l'instant, la batterie reste en sus, en location, elle aussi longue durée. Pour l'instant, l'offre n'est pas très séduisante. Les automobilistes sont prêts à passer aux véhicules électriques à condition que l'offre commerciale soit comparable à celle des véhicules électriques. Que la question de l'approvisionnement énergétique soit réglée. Hein. Et pour moi, il y a une chose qui est évidente, c'est que cette technologie, elle est encore intermédiaire pour l'instant avec les bornes de recharge, et que c'est vraiment la technologie de l'hydrogène qui va s'imposer dans les années à venir et qui constituera la vraie offre solide alternative au moteur à explosion. Les habitants de la région sont prêts à bouger, mais à condition qu'on les aide, à condition qu'on leur montre que les nouvelles offres sont à leur portée. Et bien sûr qu'ils iront vers l'électrique. C'est l'intérêt de tout le monde. Hein, parce que, comme on sait, les véhicules électriques sont plus simples de technologie, consomment moins. Donc, à terme, constituent une solution à moindre coût.
La végétalisation d'une ville comme Paris, c'est une ville qui est très dense aussi. Donc, ça veut dire quoi exactement ?
Oui, mais l'utopie, c'est la réalité de demain. Naturellement qu'il faut avoir des idées utopiques pour faire avancer les choses. Naturellement que une idée utopique, c'est quelque chose qui ne correspond pas à la réalité d'aujourd'hui. Mais on est dans un processus long et on va rendre tout cela réel. Par exemple, vous avez l'appel à projet des pariculteurs, qui est un projet magnifique, où des centaines d'acteurs proposent de végétaliser les toits terrasses, de les transformer en potager, par exemple. Hein. Donc on a là une offre de production de fruits, légumes et de fleurs éventuellement, mais aussi de ruchers, de miel, hein, donc sur les toits de Paris, qui est considérable et qui est en train de se développer.
Hein. Il y en a combien à peu près, hein?
Alors, on a une idée. Hein. Au jour d'aujourd'hui, il y a 100 hectares de végétalisés sur les murs des toits de Paris, et 30 hectares dédiés à l'agriculture urbaine. Hein. Mais c'est aussi, bon, c'est cet appel à projet par agriculteur qui est en phase 2 de développement déjà. Hein. J'invite d'ailleurs les auditeurs à aller sur mon site voir, voir de quoi il s'agit. Mais c'est aussi les jardins partagés qui sont développés. C'est aussi 20 000 nouveaux arbres qui vont être plantés. Le développement des vergers et des potagers dans les écoles. Hein. Et puis des fermes pédagogiques et des ruchers. Donc on associe la population parce que rien ne pourrait se faire sans la population naturellement. C'est la fin des produits phytosanitaires de synthèse dans les espaces verts et les cimetières. Donc ça favorise évidemment la biodiversité et c'est l'amélioration de la qualité de l'eau de la Seine puisque Paris, comme vous le savez, est ville olympique très bientôt. Et donc, comme certaines épreuves auront lieu dans la Seine, il est particulièrement crucial que la Seine soit dépolluée d'ici là. Et évidemment, c'est un bienfait pour la biodiversité halieutique à court terme.
Oui, mais vous avez vous-même l'impression que au niveau de l'eau de la Seine, la situation est vraiment en train de s'améliorer. C'est juste un peu l'idée, voilà, il y a les Jeux Olympiques, donc il faut y arriver. Est-ce que vous avez l'impression qu'on y travaille vraiment ?
Alors, on y travaille vraiment. Naturellement, il y a la question de toujours pareil, hein, de la propulsion des bateaux, hein, tout simplement. Hein. Tant que les bateaux seront propulsés par des moteurs à explosion, naturellement qu'il y aura encore une pollution. Mais enfin, comme vous le savez, les systèmes de traitement des eaux à Paris sont très, très évolués maintenant. Et on constate une augmentation de la diversité des espèces de poissons, par exemple, qui est un signe qui ne trompe pas. On constate aussi un développement nouveau de la biodiversité florale, des algues notamment. Et le souci, c'est évidemment les Jeux Olympiques. Il faut que certaines zones soient des zones de baignade à ce moment-là, donc que ça corresponde à des critères de bonne santé des eaux pour que les baigneurs puissent s'y baigner, hein, y plonger. Il y a déjà 7 sites qui sont concernés en Île-de-France, que ce soit sur la Marne, la Seine ou les canaux, à l'horizon 2024 pour les JO.
Donc en gros, on peut dire, en vous écoutant, qu'on peut être quand même optimiste. J'ai l'impression que c'est un cadre quand même, enfin, il y a quand même de bonnes raisons d'espérer aussi une amélioration substantielle de la situation.
On peut être optimiste et il est nécessaire d'être patient aussi parce que naturellement, comme on dit, Rome ne s'est pas fait en un jour, Paris non plus, hein. Donc elle ne se raffera pas non plus en un jour. Hein.
Merci.